Mère Marie de l'Esprit Saint, bonjour, ravi de vous avoir sur nos ondes de Radio Maria France.
Oui, bonjour monsieur, je suis accompagnée aussi de sœur Marie Jordan, qui est la sous-prieure du monastère.
Marie Jordan, donc, c'est ça?
Voilà, sœur Marie Jordan.
D'accord. C'est une sainte Jordan ou un saint? C'est la première fois que j'entends.
Non, le bienheureux Jourdain de Saxe était
oui.
le successeur
Mais
de
oui.
saint Dominique
Mais oui.
à la tête de l'ordre. C'est lui qui a beaucoup écrit sur les origines de l'ordre, comment ça s'était passé. Voilà, le livre qui s'appelle Libellus du Jourdain de Saxe et qui est un petit peu cet ouvrage qui retrace nos origines.
Très bien, ben, vos origines, justement, c'est ce qui nous intéresse. Quelle est votre origine? Nous avons bien compris que vous êtes dominicaine au vu de ce que vous nous avez dit.
Voilà,
Et
moi, je suis
ce
dominicaine.
monastère du Très-Saint-Rosaire et du Sacré-Cœur, monastère donc, c'est-à-dire que vous êtes cloîtré.
Voilà, nous sommes des moniales cloîtrées. Ce n'est pas toujours très bien connu, mais nous faisons partie, effectivement, des ordres monastiques cloîtrés, contemplatifs.
Comme les Carmels, comme les monastères bénédictins ou les Chartreuses, c'est ça.
Les Clarisses, voilà.
Que les Clarisses, donc vous avez une vocation à l'union à Dieu par la prière contemplative, donc c'est ça.
Tout à fait.
Très bien. Et cette prière-là, j'imagine que c'est par le Très-Saint-Rosaire, parce que c'est le nom de votre monastère, du Très-Saint-Rosaire et du Sacré-Cœur.
Alors peut-être pour comprendre un petit peu mieux pourquoi nous portons ce nom et pourquoi justement nous sommes un peu spécialement associés à la prière du rosaire, il faut qu'on retrace un petit peu nos origines, alors à la fois l'origine des moniales dominicaines et puis pourquoi il y a un monastère dans la cité du Sacré-Cœur,
Mais oui.
et Sœur Marie Jordan va vous l'expliquer.
Bien volontiers, Sœur
Donc,
Marie Jordan.
elle existe depuis le 16 octobre 1529, c'était pour la fête de Sainte Marguerite Marie qu'elle s'est donnée. Alors, quel est son fondateur? Le fondateur lointain est Saint Dominique, qui en 1206 a prêché contre l'épidémie du cathare dans le milieu de la France, et par sa prédication, il a converti 9 femmes cathares. Il les a rassemblées à Sainte Marie de Croulles. Il leur a donné comme mission de mener une vie de prière et de pénitence pour rendre féconde sa prédication. Et comme lui-même était un fervent du rosaire, il leur a enseigné à dire le rosaire, parce que Saint Dominique a même gagné, a contribué à gagner une bataille par le rosaire. Alors c'est vrai que le rosaire n'a pas été établi stricto sensu par Saint Dominique, mais il a enseigné à son ordre la dévotion particulière à la Vierge Marie, dont il priait beaucoup et par laquelle il a obtenu beaucoup de grâce et qui lui a montré, signifié une protection particulière, mais tous les ordres disent ça, hein, sur l'ordre, un jour où il était en train de prier, hein, et le Seigneur l'a emmené comme en vision au ciel. Puis il a vu des religieux de tous les ordres qui étaient présents et pas de dominicains. Et comme il pleurait, hein, devant le Seigneur, parce qu'il n'y avait aucun de ses fils et de ses filles parmi les élus, le Seigneur lui a montré la Vierge Marie qui se tenait à ses côtés, donc qui avait son grand manteau fermé. Et tout d'un coup, la Vierge Marie a ouvert son manteau et il y avait justement tous les élus, les sœurs et les frères qui étaient présents sous le manteau de Marie. Et voilà, ça signifie cette protection que la Vierge Marie a sur l'homme. Donc même si Saint Dominique n'a pas prié le rosaire, il a prié la Vierge Marie, et notamment avec la récitation des Ave Maria. Les pères fondatrices, d'ailleurs, aussi étaient disaient tous les jours le rosaire manqué. C'était sœur Marie-Joseph et Marie-Agnès du monastère de Mauléon, dans les Pyrénées Atlantiques. Et alors, quel a été l'événement fondateur pour parler de Moniales? C'est qu'un père dominicain, en disant la messe à l'autel de la chaste Sainte Marguerite Marie, dans la chapelle des Apparitions, à parler de Moniales, a eu l'intuition de manquer des moniales dominicaines dans la ville du Sacré-Cœur. Et c'était le directeur spirituel de la mère fondatrice et de sa sœur. C'est sa sœur de sang, hein. Ils étaient aussi sa sœur de sang. Il leur en a parlé. En même temps, une sœur novice du monastère, qui était même monastère, sœur Marie du Sacré-Cœur, qui a été convertie à Montmartre, a demandé que sa fortune serve à la fondation d'un monastère dominicain en l'honneur du Sacré-Cœur. Bon, ces deux conjectures ont fait que ce monastère a commencé après le même. Et le fondateur, le père Lacombe, leur a donné comme mission de dire le rosaire, c'est pour ça qu'on s'appelle le monastère du rosaire du Sacré-Cœur, mais avec le Sacré-Cœur, c'est-à-dire de méditer tout le mystère du rosaire sous l'angle de l'amour. Voilà, l'amour qui est présent dans le cœur de Jésus. Ce qui fait que, comme chaque monastère dominicain qui existe, hein, on a un certain nombre de monastères, certains en France, mais aussi répartis dans le monde, et on se rend compte que voilà, chaque monastère a cette coloration particulière. Et le nôtre, ben, c'est ça, c'est de ne pas être indifféremment dans la ville du Sacré-Cœur ou dans la ville lambda. C'est de colorer un peu notre façon de remplir notre mission de moniale dominicaine. Et cette mission est bien sûr de prier pour le monde, mais charité bien ordonnée commence par les plus proches. Et les plus proches, ce sont nos frères. Saint-Dominique a vraiment voulu ça. Asseoir sa prédication, la fonder sur la prière, et en particulier la prière de ses sœurs moniales. Donc ça, c'est notre première mission, c'est-à-dire de contempler le Verbe, de l'accueillir, de le recevoir au plus profond de notre être et de laisser porter du fruit à ce Verbe divin qui nous est transmis aussi par la parole de Dieu, de façon à ce que la parole de Dieu ne retourne pas au Seigneur, comme disait Isaïe, sans savoir porter du fruit. Et ce fruit que nous portons, mystérieusement, nous sommes appelés à porter par notre vie de contemplation, notre méditation de la parole de Dieu, notre étude de la parole de Dieu, notre façon de la mettre en pratique dans la vie commune, puisse, d'une part, aider nos frères à eux-mêmes contempler et à transmettre une vérité contemplée, et en même temps, hein, d'intervenir, d'intercéder pour que cette parole que nos frères disent puisse porter du fruit dans des cœurs bien disposés de leurs auditeurs. Voilà un peu notre mission résumée.
D'accord, et vous avez dit d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres implantations précisément ou pas? Ou combien, revenons peut-être à des questions sommaires, combien êtes-vous? Est-ce qu'il y aurait d'autres implantations?
Alors, en France, il y a des monastères qui sont implantés en Alsace, près de Colmar, à Orbais, en Bretagne, près de Dol de Bretagne, précisément à Beaufort. Il y a un monastère à Dax, un monastère à Lourdes. Le monastère, évidemment, d'origine, Sainte-Marie de Prouille, qui est près de Carcassonne, qui est vraiment le lieu de fondation. Presque de l'ordre, on pourrait dire, parce que l'ordre a commencé par une communauté de moniales formée à la vie religieuse par Saint-Dominique, avant même que l'ordre existe. Voilà. On a également un monastère à Saint-Maximin, un à Taulignan, près de Montélimar, à Langeac, près du Puy-en-Velay, à Chalais, près de Grenoble. Et puis, dans notre fédération, on a aussi un monastère en Suisse francophone, à Estavayer. Un monastère à Oslo, qui avait été fondé par le monastère de Lourdes, et puis un monastère à La Réunion. Donc ça, c'est simplement pour la partie française, mais les monastères dominicains sont évidemment beaucoup plus nombreux dans le monde.
Et chez vous, au monastère du Très-Saint-Rosaire et du Sacré-Cœur, combien y a-t-il de sœurs?
Alors, nous sommes actuellement 13 sœurs. C'est réparti entre 40 et puis notre doyenne qui vient de fêter il y a 2 jours, c'est 99 ans.
Eh bien.
Voilà. Et puis nous attendons une 14e, une postulante, qui va nous arriver et qui est retardée pour les questions du Covid.
N'est-ce pas?
Voilà.
Voilà. Voilà, je suppose que vos journées commencent ta matine et l'office divin a une grande place dans la vie aussi dans la vie des dominicaines contemplatives.
Alors, nos journées, effectivement, sont comme dans tous les monastères, rythmées par les offices. Et puis, donc, on a bien sûr l'office de l'aude le matin, les petites heures, donc, qui sont réparties à différents moments de la journée, l'office des vêpres le soir, puis compline, l'office de lecture. Donc, tout ça, ce sont un peu les grosses pierres qui rythment notre journée. Entre chaque office, eh bien, le temps réparti d'abord pour la prière personnelle, 1 heure le matin, 1 heure le soir, donc avant les laudes et avant les vêpres, également par des temps de travail. Le travail fait évidemment partie de notre équilibre de vie. Donc un temps de travail le matin, un temps de travail l'après-midi. J'allais oublier le centre de notre journée qui est effectivement l'Eucharistie. Nous avons le matin à 8h15, le matin. Et qui lance notre journée. La matinée commence par un long temps de prière avec la prière personnelle, de l'aude, de la messe. Et ça finalement, ça assoit notre journée dans la prière. Et puis, nous avons également des temps de ce qu'on appelle de vie commune. Voilà. Les repas pris en commun, des temps de récréation, d'avoir des réunions, des chapitres, des discussions communautaires. Des rencontres, des parloirs, hein, avec des prêtres, des religieuses, etc. Alors, c'est un peu ça. Et puis également, il y a dans notre journée des temps de silence, un temps de silence en début d'après-midi, qui permet aussi de se reposer, d'aller marcher dans notre propriété, de faire ce qu'on veut, mais de garder ce temps de
Oh
silence.
mince, alors là, vous voulez dire que Radio Maria, nous avons pris sur votre temps de silence. Là, c'était le temps de
Et
silence, là, 14
la question, c'est de savoir si toute parole est un manquement au silence. Et en fait,
heures.
non.
Je me le dis moi
Une
des fois
parole
quand j'ouvre la
est
bouche. Je suis peut-être trop sévère
totale.
avec moi-même.
Voilà.
Pour les autres aussi, j'ai tendance à penser la même chose, que généralement, ils gagneraient plus en charité s'ils parlaient un peu moins. Mais voilà.
Parfois, les paroles sont nécessaires. On ne fait pas partie de l'ordre dominicain si on ne le pensait pas.
Oui, et justement, je voulais vous poser la question à propos de l'étude. Est-ce que vous gardez ce nerf-là d'étude de saint Thomas d'Aquin, une formation philosophique solide ou comment est-ce que ça se passe?
Alors, par exemple, oui, alors nous avons des temps d'études. C'est un des piliers, un des 4 piliers de notre vie monastique. D'autres ordres ne diraient pas la même chose. Mais chez nous, les 4 piliers fondamentaux de notre vie, c'est bien sûr la vie commune, les vœux, la prière, la liturgie de personnel, et le quatrième pilier, le quatrième pied de la chaise, c'est l'étude. Parce que cette étude n'est pas déconnecté de la prière. C'est ce qui nous permet d'aimer Dieu de toutes les ressources de notre intelligence. Nous avons aussi besoin que notre existence, que notre intelligence soit éclairée, soit développée, soit christianisée. Nous avons besoin de connaître Dieu toujours davantage pour l'aimer toujours davantage. Et en l'aimant toujours davantage, nous avons envie de le connaître toujours davantage. Effectivement, de nous mettre saint Thomas d'Aquin.
C'est une, en fait, c'est une étude et une connaissance qui on le garde, c'est qui reste toujours un film avec moi. Pas une étude pour marcher la tête, mais simplement que on relève les principes de notre vie, sont les principes de la foi. Après, à l'intérieur de ces principes, quand les gens font marcher, il y a des connexions entre les types et entre les types. Mais même en faisant cette démarche, c'est toujours la foi qui doit être là. Et c'est ça qui fait que cette étude nourrit la conversation. Alors, bien
Oui,
sûr,
d'accord.
notre maître principal, dans l'ordre de la théologie, hein, c'est saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin avait aussi une philosophie réaliste solide, à l'école d'Aristote en particulier. Et donc, ce sont quand même, ça reste une guide principaux dans notre étude.
Mais
Pour
ça
se
va peut-être
conclure.
vous faire plaisir. Là, c'est après cette émission, nous avons Anne de la Doucette qui va parler d'une formation passeur d'espérance qui a été. Ce sont des laïcs qui sont venus chercher des dominicains, justement pour avoir une formation solide à l'anthropologie chrétienne. Et
Tout
ça,
à fait.
c'est ce qui vient dans 15 minutes, oui.
D'accord.
Et
Donc,
on reste
c'était
avec
que.
Saint-Dominique, on reste avec Saint-Dominique aujourd'hui et Saint Thomas d'Aquin. Et comme nous sommes là-dedans, est-ce que vous avez une devise ou que pensez-vous en tout cas que la spiritualité de l'ordre dominicain est à dire encore à notre année 2022, à notre ère très particulière là?
Alors vous savez que la devise de notre ordre, c'est Veritas. Alors avant, on peut dire qu'on a une devise secondaire, qui était celle des origines, ou bénir, louer, prêcher. Tout cela doit se faire pour l'annonce de la vérité. La vérité qui n'est pas simplement une théorie, une vérité abstraite, c'est la vérité qui est une personne, la personne même du Verbe. Verbe divin qui nous dit le Père, qui nous parle du Père, qui nous parle de la vie trinitaire. Et donc, c'est aller toujours à la recherche de cette vérité source. C'est ça qui est important pour nous. C'est ça que nous devons sans cesse creuser. Donc, c'est ça la devise de notre ordre. En tout temps, aller contempler la vérité. Non pas simplement étudier, chercher la vérité,
Ce qui est déjà pas
mais se
mal.
mettre à l'école du Verbe qui est la vérité. Et
Allez.
ça, je pense que notre monde en a toujours besoin. Et certainement à notre époque, d'une façon qui lui est propre, on a besoin de retrouver cette vérité qui nous est donnée d'en haut et qui n'est pas déterminée par un consensus horizontal, terrestre. La vérité existe, c'est ça que nous avons à dire. Elle s'est fait connaître à nous, et c'est cette vérité-là que nous devons rechercher pour devenir pleinement nous-mêmes, ce que nous avons à être, que notre monde oublie beaucoup.
Et donc se réjouir aussi de cette vérité, comme on dit que la
Et se
charité se
réjouir.
réjouit de la charité se réjouit de la vérité. Donc finalement, c'est réjouir la charité que d'aller vers la vérité, non?
Tout à fait, oui. Tout à fait. Et la vérité, n'oublions pas, nous rend libre.
Nous rend libre. Et cette grande liberté-là, où est-ce que vous la voyez, ma mère, dans votre vie?
Je crois que la liberté, ce n'est pas à certains endroits qu'on la voit. C'est quelque chose que l'on recherche de plus en plus. Notre vie est faite pour entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver à certains endroits et pas à d'autres. Donc, nous devons apprendre à vivre dans cette liberté des enfants de Dieu. C'est à la fois un objet de travail, de recherche. Nous étudions aussi la vérité pour devenir plus libres, mais c'est entrer en profondeur dans cette liberté des enfants de Dieu. Et on sait bien que plus on est proche de Dieu, plus on est libre. Et qu'à ce titre, la personne humaine qui a été la plus libre est la Vierge Marie, parce qu'elle a été la plus proche de Dieu.
Et comment cette
Donc
liberté...
voilà, la
Pardon, je vous
Vierge
en...
Marie est aussi notre modèle, celle qui nous aide à justement découvrir cette liberté, découvrir et accueillir cette vérité et en vivre.
Et comment cette liberté-là, peut-être qui sera difficile pour notre époque, comment cette liberté-là peut se vit avec les structures, avec le poids des structures, le poids des us et coutumes, le poids de la régularité, des habitudes. Parce que notre époque voit la liberté d'une autre manière, et même notre Seigneur, en somme, lorsqu'il est venu, c'est vrai que Jérusalem ne l'a pas grandement accueilli, non?
La question, c'est est-ce qu'il faut opposer liberté
Voilà.
et existence de structure? Bon, je pense que ça, c'est une fausse question. Les structures, bon, par exemple, dans notre livre, c'est évident, il y a une hiérarchie, une supérieure. Est-ce que ça est un frein à la liberté ou une aide à la liberté? Est-ce que l'obéissance, en d'autres termes, en obéissance religieuse, qui implique justement d'avoir des supérieurs, d'obéir d'abord à un propositum vitae, à un propos de vie, et celui sur lequel on s'est engagé le jour de notre profession solennelle, est-ce que le fait de se donner une règle de vie, de l'accepter, est-ce que ça va à l'encontre de la liberté? C'est même pas une question qu'à l'époque de Thomas d'Aquin, on pouvait se poser. C'est un de soi, la réponse. De nos jours, on a une conception qui est très tronquée de la liberté. Une liberté, on pourrait faire ce qu'on veut, comme tu veux, quand tu veux. Voilà.
Pour la vraie liberté, voilà, c'est la soirée du Jordan.
La vraie liberté, c'est la liberté de l'être. Et Dieu est vraiment, il n'y a que Dieu qui est vraiment libre. Parce que nous, à cause du péché originel, on est un peu l'esclave du péché. Et le Dieu, lui, non. Lui, il est pleinement libre. Et si je rentre dans le projet de Dieu, si j'écoute sa parole, si Adam et Ève avaient écouté la parole de Dieu, ils n'avaient pas écouté le serpent, ils auraient grandi librement vers Dieu petit à petit. Parce que le but de notre vie, c'est de rentrer en communion avec Dieu. Et cette communion, elle ne peut se faire que dans la liberté. Ça veut dire que Dieu ne nous impose pas cette communion. Il nous a créés sans notre avis, mais il ne nous divinise pas sans notre avis. Et alors il dit, veux-tu? Et c'est là que j'engage ma liberté. Oui, je veux, parce que Dieu veut totalement se donner à moi. Mais moi, il faut aussi que je me redonne totalement à lui. Et qu'est-ce qui m'empêche de me donner totalement à lui? Ce sont toutes nos peurs, nos attaches au péché, etc. Et c'est ça qui empêche que cette vie libre, qui a en Trinité le Père qui engendre le Fils et le Père qui ensemble sur l'Esprit, c'est une espèce de vie qui circule sans arrêt et dans le don. Et la sainteté, c'est ça. Et nous devons rentrer dans ce don. Et toute règle monastique ou tous les commandements de Dieu sont des moyens pour nous libérer de nos chaînes.
Pour permettre, vous voulez dire, donc pour permettre ce don, ce serait dans la sagesse qui a été donnée pour permettre un don radical, et très bien.
C'est tout à fait ça, pour permettre le don radical, et ce qui peut être dit de tous les moyens de notre vie religieuse, de notre vie monastique, puisqu'il y a aussi la culture, qui peuvent sembler tellement contraignants à certains de nos contemporains, qui ont du mal à comprendre que ce n'est pas nous qui sommes enfermés. Nous, en fait, on choisit cette structure pour être beaucoup plus libre.
Mais libre vers le haut. C'est
libre vers le haut.
C'est
voilà.
Ouvert.
On ne peut pas se tromper de liberté.
Très bien. J'aimerais peut-être savoir, parce que je pense que vous nous avez fait l'amitié de bien aborder tous les points. Peut-être voulez-vous en aborder certains quand. À l'être même de votre monastère, de quoi vous vivez ou autre. Sinon, je serais heureux d'entendre quel a été cet appel à suivre notre Seigneur, mais dans cette obéissance et à l'intérieur d'un monastère, c'est-à-dire à une vie décidément plus amoureuse, plus, voyez, plus inutile aux yeux du monde, mais peut-être plus précieuse aux yeux de Dieu.
Alors, il est vrai que chacune d'entre nous a son histoire personnelle, parce qu'elle est conduite, d'une manière unique par Dieu. C'est toujours assez bouleversant d'étudier comment de comprendre, de connaître comment chaque personne a été appelée par le Seigneur. Mais Sœur Marie Jordan va vous expliquer un peu comment elle a été appelée.
Voilà, pour dire en bref, j'ai eu un appel très fort en classe de philo pendant un cours de métaphysique. Le prof nous disait que Dieu est l'être même subsistant. Il est son être et il donne l'être à tout ce qui existe. Et à ce moment-là, j'ai été envahie par une voix et je me dis, Dieu ne peut pas mourir. Il est l'être, il a son être, il est son être, donc personne ne peut le lui enlever et il donne l'être à tout le monde. Et tout le monde râle, personne ne dit merci. Du coup, j'ai eu comme une inspiration de dire au Seigneur, mais moi, je veux passer ma vie à te dire merci. Ça s'est passé. Et 3 ans plus tard, alors que j'étais étudiante en médecine, j'ai eu la joie de vivre un amour humain extraordinaire dans la chastité réciproquement voulue et acceptée. Et à la fin de l'année, Serge Pédarson m'a demandé en mariage. Avant de lui répondre définitivement oui, je voulais en parler à Dieu durant une retraite prêché par le père Roustan, qui était un chapelain du Sacré-Cœur, dont le cœur était brûlant d'amour pour le cœur de Jésus. Et pendant une conférence, il nous disait que Jésus ne nous aimait pas comme le président de la République aime tous les Français, mais qu'il nous aime comme une unique. Et à ce moment-là, j'ai fait une expérience de l'amour du cœur de Jésus, parce que je suis envahie intérieurement par un océan d'amour est en même temps libre et intense, avec en même temps cette certitude que Dieu m'aimait comme une nuit, et qu'il avait la joie à m'aimer. Et j'ai compris que c'est ça le ciel, c'est d'aimer Dieu et d'être aimé de lui. Et alors, je disais au Seigneur, mais donne cet amour à Serge, parce que c'est pas mon petit amour humain, mais c'est le tout petit qui va le combler, c'est cet amour-là. À ce moment-là, j'ai dit, toi, donne-moi cet amour humain, je vais être ton unique. Et cet amour était comme une belle fleur dans mon cœur, ayant des racines partout. Alors, je disais au Seigneur, mais comment veux-tu que j'arrache cet amour de mon cœur? Il va exploser en mille morceaux. Et j'ai dit intérieurement, non pas en paroles. Ce que je vous dis, c'est pas des paroles que j'entends, mais c'est comme la voix de la conscience qui répond. N'arrache pas cet amour de ton cœur, mets ton cœur dans mon cœur. Je brûlerai ses racines et ses racines deviendront de la lumière. Et c'est ce qu'il a fait, parce que moi, je pensais que cet amour allait partir. Non, il me l'a laissé, mais libre et transfiguré. Voilà ce que c'est que, quand on nous donne quelque chose, il nous le rend transfiguré. Alors, vous voyez que c'est bien lié à par exemple de l'histoire.
En effet, il est beaucoup question de la fibre du cœur et de l'irruption de la charité dans le vôtre. Et aimer le prochain pour Dieu en vue de Dieu, c'est bien la charité. Et c'est un très beau témoignage que vous nous avez fait, oui.
Alors, chacune dans la communauté a une tonalité propre, voilà, du Sacré-Cœur, qui à un certain moment fait partie du chemin qui a conduit chacune dans cette communauté. Donc c'est pour ça que, alors il y a à la fois la Vierge Marie et le Sacré-Cœur, qui fait qu'on a un petit peu la certitude de ne pas s'être retrouvé là par hasard, et moi en particulier, dans mon cheminement, hein, entre mes 17 ans et mes 27 ans, j'ai successivement dit avec des lumières humaines tout à fait plausibles, hein, tout à fait acceptables, que je ne serais jamais bonne sœur, surtout pas moniale. Après une expérience où j'ai un temps travaillé dans le département, que je ne reviendrai plus jamais vivre en Saône-et-Loire, et quand j'ai pensé à la vie religieuse, quand le Seigneur m'a appelé, il n'y avait qu'un seul endroit où j'étais sûre de ne pas aller, c'était chez des dominicaines. Voilà. Il n'y avait pas un bon souvenir de mon école, des dominicaines. Et surtout pas à Paray-le-Monial, parce que, les charismatiques, avec l'Esprit Saint, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Voilà. Et quand je suis venu voir une amie ici, eh bien, voilà, le Seigneur m'a retourné, et à tel point, jusqu'au bout, voilà, puisque je m'appelle son mari d'Esprit Saint. Ce n'était pas tout à fait prévu au point de départ. Mais, voyez, on peut dire un certain nombre de choses avec des raisons humaines valables. Et puis, quand le Seigneur éclaire ça d'une autre lumière, une lumière qui, comme disait Saint Marie Jordan, laisse entièrement libre, mais à travers lequel l'amour de Dieu se donne, l'amour du cœur de Jésus se donne, qu'on a produit en vie de Guernon, si on cherche vraiment Dieu, et si on laisse Dieu ouvrir notre cœur à la joie.
Et on verra qu'il
a... On ne rentre pas pour souffrir et d'abord faire pénitence, on entre parce qu'on est porté par la joie de se donner à Dieu.
Et une joie qui vient de lui. Et oui. Alors... Ma mère, peut-être, mes mères, le message du Sacré-Cœur pour notre temps. Vous êtes là, très proche de ce sanctuaire, de ce lieu d'apparition béni. Et qu'est-ce qu'il a à dire à nos auditeurs, ce Sacré-Cœur?
Qu'est-ce que le Sacré-Cœur a à dire aujourd'hui?
Eh oui, c'est certainement... Hein, peut toujours la même chose, hein. Un cœur qui aime dit à peu près toujours pareil. Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Mais alors qu'est-ce que c'est?
Parce que ce que le Sacré-Cœur a dit aujourd'hui, c'est que parfois je suis frappée par le nombre d'efforts que font les gens pour être aimés. Ils font des tas de choses pour être aimés. Hein. Et pourtant, ils sont chacun aimés. Et oui, ils veulent le mettre. Surtout les gens veulent mériter l'amour. Or, le Sacré-Cœur nous dit, cet amour, il est gratuit. Et il nous est donné. Chaque être peut dire, alors, est-ce que je suis aimé? Est-ce que j'existe? Oui, il est aimé et gratuitement. C'est gratuit. Ce n'est pas, on ne le mérite pas. Après, on mérite son augmentation. Mais à la base, on ne mérite pas l'amour. L'amour est gratuit. Et je pense que c'est un message important parce que combien de gens, quand on écoute les gens, parce qu'il y a des personnes qui passent, combien de gens sont inquiets pour savoir comment mérite l'amour alors qu'ils sont aimés et les enfants.
Ben, c'est la suite du péché originel, hein, nous faire douter de ce qu'on est, de notre valeur, de notre capacité à être aimé. Or, effectivement, le cœur de Jésus vient nous dire que nous sommes aimables d'abord parce que nous avons été aimés en premier et créés avec amour. Et c'est ça qu'il faut redécouvrir et que le démon veut surtout que nous ne redécouvrions pas. Donc, il faut prendre le contre-pied de ce que nous voulons. Bon, si le démon a un plan de malheur sur nous, ben, il faut prendre l'inverse. Il faut trouver le plan du bonheur que Dieu a sur chacun de nous.
Et un Dieu qui est tout puissant, donc ça, le don d'apaiser, de savoir qu'en même temps il veut, il peut et il sait. Mère Marie de l'Esprit Saint, c'était une joie. Sœur Jourdain, c'est bien ça? Sœur Marie Jourdain?
Marie Jourdain,
pardon. En tout cas, c'était une joie de vous découvrir et d'entendre vos propos si bienvenus. Hein. C'était une joie de vous avoir. Merci beaucoup de votre présence à notre antenne sur Radio Maria France.
Merci à vous. Et en communion de prière.
En union de prière, par le Saint-Rosaire, non?
Entendu.